Je suis à l'hôtel Cornavin à Genève avec Martin Witz.
Guten Tag.
Bonsoir.
Die Welschen, die sprechen überhaupt kein Deutsch. Überhaupt kein Deutsch. Alors, on va parler en français. Voilà. Vous savez comment ils sont, les Suisses romands. Hein. Alors, on vous rencontre pour Getaway to New York, un film magnifique sur un ingénieur civil qui a œuvré essentiellement aux États-Unis, qui vient de Suisse, qui a fait les PFZ. Il s'agit de Otmar Heinrich ou de Hermann.
Hermann.
Oui, Hermann, voilà, et pas Heinrich. Vous l'avez découvert comment? Parce qu'en fait, on a tous été sur ces ponts à New York, au Verrazzano, au George Washington, sur la Golden Gate. Beaucoup ont été en touriste, mais on ne sait pas qu'il y a un Suisse derrière ces ponts.
Écoutez, au début, effectivement, c'était les ponts, comme pour nous tous qui l'ont vu pendant des visites à New York. Et moi, je l'ai vu pendant, je ne sais pas, 40 ans. Mais le fait que c'est un Suisse qui est derrière ces formes magnifiques, ça j'ai découvert beaucoup plus tard, pendant une recherche pour un autre projet. Tout d'un coup, je vois que c'est un jeune Zurichois qui arrive à New York, 1904, pour y travailler un an, deux ans, pour gagner un peu de l'expérience, pour rentrer en Suisse, pour construire des ponts. Et il est resté toute sa vie pour finir, à la fin, construire un pont, le Verrazzano Narrows Bridge.
1964.
Exactement. Le plus grand, le plus long pont automobile du monde. C'est une histoire énorme parce que quand il est arrivé en New York, il n'y avait même pas de voiture, vous savez.
Les calèches avec les chevaux.
Oui, quand il arrive à 04 à New York, il trouve un Manhattan sans voiture, avec des chevaux qui tirent des petits wagons de tram, avec des marchés ouverts, avec un vrai bordel des fois. Et à la fin, quand il meurt,
65, il a 86 ans.
Oui, c'est ça. Il a vraiment vécu tout ce 20e siècle dans son accélération énorme. Il a toute la moderne classique dans sa biographie. Et ça m'a vraiment fasciné après avoir découvert cette vie. Une personne qui porte dans son corps ce siècle avec son
développement. La modernité.
Oui, toute la modernité.
Et puis alors justement, quand à travers votre film, on découvre que Otmar Hermann était en fait précurseur, il était avant-gardiste, déjà dans ses façons de vouloir construire, puisqu'il voulait anticiper sur les autres qui lui disaient « ça ne va pas être possible ». Par exemple, avoir une architecture épurée, aussi à cause peut-être des raisons financières, qui permettra en fait de gérer la souplesse des ponts par rapport au mouvement, par rapport au vent.
Oui, la grande question, est-ce qu'il était un visionnaire ou est-ce qu'il était juste, entre guillemets, un très bon ingénieur? La vérité est quelque part au milieu de ces deux pôles, si vous voulez, parce que seulement avec une vision, on ne construit pas des ponts comme ça. Et seulement en calculant d'une manière géniale comme il l'a fait, non plus. Ça veut dire qu'il a vraiment combiné ces deux domaines.
Son savoir et sa vision.
Oui, un savoir vraiment précis, avec une éducation à l'époque. La meilleure éducation qu'il a pu avoir, c'est l'école polytechnique à Zurich. Puis, il a fait une dizaine d'années avec un constructeur de pont à New York, le meilleur du monde, M. Lindenthal. Ça, et sa capacité de parler trois langages a fait la base pour une carrière exceptionnelle aux États-Unis.
Et puis vous mentionnez, il est arrivé en 1904 à New York, donc c'est aussi l'arrivée de beaucoup de migrants. Donc il y a aussi une émulation, il y a une énergie, parce que c'est le début d'un nouveau siècle, un siècle qui sera basé sur l'acier et la construction. On le voit dans votre film, c'est l'acier qui est le roi de tout ce qui se construit à l'époque aux États-Unis.
Oui, c'est effectivement l'époque de l'acier. Et lui, avec ses ponts qui demandent vraiment l'extrême de l'acier, si je peux dire ça sans être ingénieur, il est d'une certaine manière, on peut même dire qu'il est un héros de la modernité dans l'architecture et dans le champ des ingénieurs.
Oui, justement, à l'époque, on parle à la fois de iron workers, les travailleurs de l'acier, mais aussi de skywalkers, ceux qui travaillent, qui marchent dans le ciel. Ce sont essentiellement, on voit dans votre film, ça rend hommage à toute cette population d'Indiens Mohawks qui viennent du nord du Québec, qui ont été souvent utilisés d'ailleurs, que ce soit dans la construction ou d'autres domaines. Et on voit que ces Mohawks, ils sont à la fois fiers d'avoir participé à ces travaux, mais aussi il y en a un qui dit, mais on doit payer les péages pour prendre l'autoroute alors qu'on a risqué tous les jours notre vie.
Tout au début, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis dit, tiens, je ne veux pas seulement raconter l'histoire de ce génie, de ce cerveau génial qui invente et qui calcule tout ça, mais j'avais aussi envie de effectivement faire hommage à ces gens qui vraiment ont construit ça avec leurs propres mains.
Façonné.
Oui, et puis c'était pas seulement des Mohawks, c'était aussi des Italiens, des Polonais, toutes sortes d'immigrants qui ont travaillé pour pas beaucoup d'argent au début. Mais les Mohawks m'ont spécialement fasciné parce que je me suis dit, tiens, c'est les Native Americans, ceux qui étaient les maîtres de ce continent, qui ont été presque détruits par la culture des Blancs, qui travaillent maintenant sur les chantiers des Blancs pour des voitures d'une culture qui, à la fin, leur a coûté tout leur territoire.
Et puis dans votre film, on voit qu'il y a eu aussi des accidents graves qui ont décimé beaucoup d'Indiens.
Oui, c'est une histoire tragique avec ces accidents. Mais ce n'est pas seulement les ponts, c'était les conditions de travail à l'époque. Il n'y avait pas des règles pour la sécurité. Il y avait vraiment des conditions affreuses pour des ouvriers. Les Indiens, eux, ils sont au contraire aussi fiers qu'ils étaient capables de travailler sans être attachés, parce que pour eux, c'était être attaché était plutôt pour les lâches, les gens qui n'ont pas de courage. C'est aussi un grand romantisme sur le danger. Mais au fond, c'est des hommes très courageux, très conscients des dangers, et comme on peut voir dans le film, vraiment très très fiers de leur capacité, de leur métier.
Et comme montre votre film, un des Mohawks qui témoigne dit « on avait quand même peur, on avait peur du vide, on avait le vertige, mais on ne le montrait pas parce qu'on avait la réputation aussi qu'on n'avait pas de vertige ».
Oui, cette histoire de ne pas avoir de vertige, c'est intéressant parce que c'est aussi un peu un mythe. J'ai parlé avec eux, avec plusieurs Mohawks, en leur posant exactement cette question, et ils ont souri un peu en disant « écoutez, c'est pas génétique ». Je peux vous dire, il y a la peur, il y a le danger, il y a le vertige, peut-être un peu moins. Nous, on était juste habitués à prendre le risque, on était fort, on a eu besoin du fric.
Pour les familles.
Pour les familles, et bon, on était bons, mais on n'était pas sans vertige et sans peur, ça c'est de la bêtise.
Alors, votre film, ce qui est très marquant quand on le voit, c'est qu'il y a énormément d'images d'archives, toujours bien amenées, toujours au bon moment. Vous avez fait comment pour trouver toutes ces archives et comment les sélectionner aussi?
Il y a effectivement une énorme somme d'heures d'archives dans ce film, et évidemment, j'ai eu un peu d'aide aux États-Unis. J'ai eu deux assistantes, deux collaboratrices, il faut dire, qui sont spécialisées sur la recherche d'archives. Et il y a effectivement aux États-Unis un grand nombre d'archives intéressantes, chères aussi. Il faut avoir un budget pour vraiment acheter ces images quand on a besoin à la fin. Mais tout au début, on ramasse un maximum et on commence à trier, à structurer un peu. Et moi, j'ai un monteur très très bon, Stephen Kaling, et nous deux ensemble, nous avons essayé de trouver l'essentiel dans toute cette montagne énorme de matériel. J'ai eu beaucoup de chance avec deux archives en fait, L'un, c'est l'archive de l'école polytechnique à Zurich, qui a tout l'héritage de Hamann, avec des centaines de lettres qui m'ont servi de faire vivre cette personnalité dans le film, à travers d'une voix d'un acteur, bien sûr, mais de laisser parler le chef de temps en temps, et à mon avis, ça aide beaucoup.
Ça personnalise.
Oui, ça personnalise Hamann comme le héros de l'histoire.
Oui, c'était une de mes questions. Il écrit à sa femme qui est restée en Suisse, Lily, qui va le rejoindre. Et là, il exprime à la fois des choses très personnelles, puis il y a aussi ses journaux intimes.
Il y a une grande un grand chiffre de lettres d'amour à sa Lily, où il ouvre son cœur au début, quand il est seul à New York, les 2 ans avant qu'elle arrive. Il ouvre son cœur presque tous les soirs. Il rentre chez lui dans sa petite chambre. Il dit « Oh Lily, je pense à toi. J'ai envie de causer un peu avec toi. » Il le fait. Et toutes ces lettres sont maintenant à Zurich. C'est un peu aussi même gênant de lire des lettres d'amour d'un autre homme, mais je l'ai fait et j'étais très touché par cette chaleur d'un homme qui a l'air si froid et muet et sec. C'est vraiment une contradiction intéressante, que lui, qu'il a vraiment l'air d'un ingénieur cliché, d'un Suisse alémanique cliché.
Quadrat Meinung.
Il y a un quadrat Schädel qu'il écrit des lettres comme ça. Il écrit aussi d'autres textes qui servent au film, à mon avis. C'est des textes qu'il a fait pour des articles de journaux, pour des sermons qu'il a eu dans des salles.
Des publications.
Des publications pour faire la promotion de ses ponts. Il a dû lutter pour ses projets plusieurs fois. Il a dû persuader le public, la presse, les financiers, les politiciens. Et tout ça l'a fait écrire des centaines de textes. Et tous ces textes, on trouve à Zurich. Et une petite partie de ces textes, on peut maintenant écouter dans le film.
Et justement, à propos de Zurich, l'École polytechnique lui a remis en fait un titre de docteur honoris causa.
Oui.
Et puis, quand même, aux États-Unis, c'était le premier, je crois, étranger à recevoir la médaille par rapport au travail qu'il avait effectué dans le génie civil, de la part du président Johnson.
Oui, c'est vrai, il a reçu le... Il faut faire attention que je dis correctement, le National Medal of Science.
C'était
le premier ingénieur qu'il a reçu à l'époque. Mm. Il faut savoir que Hamann, à la fin de sa vie, ou disons même la deuxième moitié de sa vie, il était très fameux aux États-Unis, mais aussi en Europe et surtout en Suisse. C'était pour le public suisse, c'était notre grand
héros
qui a eu du succès aux États-Unis. Mmh. Celui qui montre aux Américains comment faire des ponts. Il était vraiment... Un héros comme peut-être pas si grand comme Roger Federer dans nos jours, mais un peu dans cette direction. Après, de plus en plus, il a été oublié. Et pour moi et ma génération, il était déjà presque inexistant. C'était une grande surprise, une grande découverte, et j'espère vraiment que le public, les spectateurs du film ont le même plaisir comme je l'ai eu en train de redécouvrir ce monsieur Otmar Hamann.
Ben, comme je disais en début d'interview, en fait, en tant que Suisse, on a été sur la Golden Gate, sur le pont Verrazzano ou sur le George Washington, sans penser qu'il y a un Suisse derrière ces ponts. Et est-ce que ça vous a changé votre regard de travailler sur son histoire incroyable, sur son œuvre, et puis après de vous promener sur ces ponts différemment?
Évidemment, ils me font plus plaisir qu'avant parce que c'est tellement d'histoire derrière toutes ces formes. Autrement, non, ça ne m'a pas tellement changé personnellement, sauf que mon respect pour ces grandes constructions est beaucoup plus grand, évidemment.
Vous avez l'art de rendre la notoriété à des gens qui ont été un peu oubliés. On pense justement à Hoffman avec le LSD, le film qui vous a valu un prix. Ou on pense aussi à Gottlieb Duttweiler, le fondateur de la Migros. Maintenant, la Migros, pour les gens, c'est normal, c'est partout. Là aussi, pour en fait, Otmar Hamann, les gens peut-être ne savent même pas qu'il était une grande figure au début du XXe siècle. Le rôle qu'il a joué.
Oui, il me semble vraiment que ça va être une découverte pour le grand public, et comme c'était une découverte pour moi. Mais je dois vous dire, ce n'est pas le fait que c'est un homme super doué ou très fameux, à l'époque très fameux, qui m'a fait faire ce film. C'est plutôt l'idée que en mettant une personnalité si significante au centre d'un film, et autour de cette personnalité, montrer tous ces éléments historiques, comme l'urbanisation de New York, comme, est-ce qu'on dit, l'automobilisation de la société.
Des automobiles, parce que ça, justement, il est du précurseur.
Oui, l'accélération du XXe siècle en général, tout ça. Si j'ai une personnalité au milieu et je suis capable d'ajouter tous ces aspects historiques autour, c'est ça qui m'intéresse.
C'est comme s'il servait de fil conducteur. D'ailleurs, on voit qu'il a anticipé. Les automobiles sont de plus en plus nombreuses. Et lui, il a anticipé pour pouvoir faire des ponts à deux étages.
Oui, cette histoire de deuxième étage de George Washington, c'est marrant parce qu'on pourrait même dire que c'est un type de pragmatisme suisse, en disant... Aux financiers
aussi.
Ça,
c'est un compliment, hein ?
Oui, dans le sens positif. il a dit aux financiers, écoutez, je le fais beaucoup moins cher que mon concurrent, je le fais beaucoup plus élégant. J'ai cette idée d'un deuxième étage, mais ce n'est pas encore nécessaire. Je fais toutes les préparations, je calcule que ça va marcher dans 30 ans, mais ça va être... beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins cher, et ça, c'est mon concept. Et il a gagné, parce que 30 ans plus tard, le trafic a augmenté, ils étaient effectivement capables d'ajouter un deuxième étage au George Washington, simplement en serrant les vis, vous savez.
Et puis justement, ce qu'on mentionnait, c'est qu'il avait déjà l'idée de forme épurée, aussi parce qu'il y avait un coût à respecter, c'était assez cher. Et en même temps, cette épuration, ça a été considéré comme la représentation de l'architecture moderne, du modernisme du XXe siècle.
Moi, ce qui est intéressant avec ce modernisme, c'est, dans le cas de Hamann, c'était effectivement pas son projet. Il était un homme du XIXe siècle. Si on regarde les premiers... dessin du George Washington Bridge, c'est une conception tout à fait classique avec des ornements, avec la représentation des arcs, tout, avec des pierres, c'était avec des statues. Tout ça n'était pas possible à réaliser pour lui à cause de cette crise financière, et il a décidé de laisser cette construction, disons, nue. On voit l'acier jusqu'aujourd'hui, mais tout ça, il faut savoir, c'était pas son idée, c'était faute de mieux, faute de fric.
Voilà.
Mais il faut savoir qu'après le finissage de ce pont, c'est monsieur Le Corbusier qui arrive à New York, qui se balade à Manhattan, qui va en haut vers ce pont qui a été construit un an avant, et Le Corbusier dit ça, c'est le bâtiment le plus moderne et le plus juste de tout Manhattan. Et à partir de ce moment, Hamann était quasiment libre de continuer dans cette direction. Et il était aussi, comment on peut dire, affirmé.
Consacré.
Consacré par le grand critique, Le Corbusier. Et ça lui a ouvert... l'horizon pour vraiment continuer dans cette direction du modernisme qu'il a découvert, disons, presque par hasard.
Alors, on a mentionné les vastes archives dont vous avez disposé, vous avez sélectionné. On a mentionné les témoignages, que ce soit les lettres d'amour à Lily ou à d'autres publications. Il y a aussi des magnifiques et vraiment spectaculaires vues aériennes qui viennent confirmer tout ce qu'on a entendu auparavant par les lettres d'Aman ou par les personnes qui témoignent. Ces vues aériennes, vous avez choisi de les mettre pour consacrer aussi le travail que vous avez effectué sur lui. C'est très impressionnant.
Comment filmer des grands ponts? Ça, c'est vraiment la grande question pour un chef opérateur. Patrick Lindenmayer, qui a fait un boulot parfait, à mon avis, a montré la dimension des ponts. Parce que si vous filmez quelque chose de grand, c'est pas toujours grand sur les images de deux dimensions. Nous, on a pris un peu de temps, parce que toujours si on fait une image, on est vraiment, on dépend de la lumière, tout le monde le sait. Ça veut dire, si on veut filmer des ponts, il faut avoir du temps pour attendre que c'est juste, et il me semble que ça vaut la peine. Il a bien fait, Patrick, très bien fait, surtout en décidant de filmer plusieurs plans depuis des bateaux. On a décidé d'aller en bateau pour vraiment pouvoir choisir les angles et les distances. Et ça, il me semble, valait la peine.
Ça vaut la peine, ça, vraiment, ça donne en plus une impression d'ensemble qui permet au spectateur de vraiment comprendre tout ce qui a été effectué par ce monsieur, Otmar Aman. Ça vous a valu le prix du public à Soleur. Maintenant, le film sort le 19 sur les écrans en Romandie. On vous rencontre une semaine avant. Et on peut déjà parler de vos projets, peut-être? Est-ce que vous êtes déjà en train d'investiguer sur un autre Helvète qui a fait des choses grandiloquentes?
Il y a des idées, mais vous savez, moi, je travaille très souvent dans des salles de montage de mes collègues. Je fais surtout souvent des montages, la dramaturgie. C'est comme ça que je gagne ma vie, en principe.
En Allemagne aussi.
Oui. Et il me semble que les ans prochaines, 2-3, c'est plutôt ce genre de travail qui m'attend. Mais bien sûr, si je vois de nouveau un sujet qui me tente, je vais tout de suite essayer de le financer.
On imagine. Merci beaucoup, Martin Witt. On doit vous laisser parce que le temps passe. Merci en tout cas de nous avoir consacré de votre temps et félicitations pour ce magnifique film.
Merci à vous, c'était un plaisir de parler à vous.
Moi de même, merci. Schönen Dank, danke vielmals.
Bitte.